Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, chers auditeurs de VOA Afrique. Merci d'être branchés sur notre fréquence magique. Ce soir, nous parlons de l'autonomisation économique de la femme en Afrique. Nous explorons les défis et les opportunités qui se présentent à ces femmes courageuses qui cherchent à s'affirmer et à prospérer sur le plan économique. Bienvenue donc dans ce voyage passionnant à travers les histoires inspirantes de femmes qui se lèvent pour façonner un avenir meilleur. Chaque femme en Afrique a le pouvoir de réaliser ses rêves et de prospérer. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. En Afrique du Sud, nous sommes en ligne avec Cyrila Mgakira. Bonsoir, Madame Mgakira.
Bonsoir Eric.
Je signale que vous militez à appuyer les femmes qui portent le fardeau le plus lourd d'un monde qui marche à reculons. C'est ce que vous dites. Vous êtes spécialiste du développement du capital humain et vous avez vécu ou habité dans 27 pays africains. Là, je ne cite pas l'Europe, les États-Unis ou le Canada. Encore une fois, bienvenue et merci d'être avec nous. Nous avons notre deuxième invité, Salimata Thiam, qui est spécialiste en civilisation africaine, en genre et développement et en gestion de projets avec 20 ans de dévouement professionnel à l'égalité de genre, à l'autonomisation de la femme, au leadership de la jeune femme, à la réduction de la pauvreté et au développement durable. Madame Thiam, bonsoir.
Bonjour Eric.
Et bienvenue dans À votre avis. Notre troisième invité, c'est Frida Darmani. Elle est journaliste à Tunis. Frida, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue encore une fois, Frida, dans cette émission. Je vais commencer avec vous, Salimata. Voudriez-vous nous parler de votre expérience en tant que femme engagée dans le développement de l'autonomisation économique des femmes en Afrique de l'Ouest?
Merci beaucoup, Eric. Mon intérêt sur le développement de la femme, surtout par rapport à la femme africaine, a démarré à très bas âge. Comme vous le savez, le contexte africain s'y prête. Nous sommes dans un contexte où les femmes constituent une pierre angulaire de la famille. C'est elles qui donnent vie, c'est elles qui nourrissent, éduquent. Et en tant que femme, et en tant que jeune enfant africain, j'ai grandi la coupole de ma mère qui a beaucoup influencé mon éducation et plus tard ma formation et ma carrière professionnelle. Donc c'est normal que je me suis intéressée sur les questions d'autonomisation vu le contexte dans lequel j'ai vécu et j'ai grandi. Donc ce rôle clé que, en général, les femmes jouent en Afrique dans le maintien et l'équilibre socio-économique de la famille a été très, très, très déterminant dans ce que je suis en train de faire. Je suis très passionnée par ce travail. J'ai commencé très tôt, déjà à l'université, à mener des enquêtes de terrain auprès des femmes qui sont dans le monde rural et qui se battent pour à travers la création de, je peux dire, mécanismes de survie, je les appelais comme ça, parce que vu l'impact et tous les efforts fournis, les résultats obtenus in fine, moi je les considérais comme des mécanismes de survie. Je vais parler des associations auxquelles elles s'adonnaient, des activités génératrices de revenus, qui les amenait à se lever très tôt le matin, à 4 heures du matin, et j'étais déjà active, parce que j'étais travail de terrain auprès de ces femmes. Et ça m'a amené à considérer toutes ces actions comme des actions de survie, parce qu'il fallait qu'elles se battent, qu'elles trouvent un moyen de survivre face à la réalité de la vie. Donc, je peux dire que ce paradoxe que j'ai constaté sur les efforts que les femmes prenaient pour représenter quelque chose dans la société, pour sortir de la vulnérabilité dans laquelle elles étaient, sont aujourd'hui permis à atteindre peut-être quelques sphères, quelques sectes qui a beaucoup contribué à notre autonomisation. C'est sûr qu'autour des discussions, nous allons venir sur des exemples concrets que j'ai eu à vivre avec ces femmes-là. Mais sachez qu'on a vraiment beaucoup travaillé sur les questions de santé reproductive des femmes. On a beaucoup travaillé sur les questions de participation politique avec ces femmes. On a aussi beaucoup travaillé sur les questions de transfert de compétences, renforcement de capacités avec des séries de formations et autres. Voilà ce que je peux dire en introduction sur ce qui a influencé ma carrière professionnelle et ce qui a aussi renforcé mon engagement à travailler sur les questions d'autonomisation pour les femmes africaines, plus particulièrement les femmes de l'Afrique de l'Ouest. Merci Eric, à vous.
Merci pour toutes ces précisions. Madame Mgakira, je ne voudrais pas revenir sur votre longue carrière, mais quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels sont confrontées les femmes africaines en matière d'autonomisation économique?
Eric, je crois, comme vous le dites, du fait de mon âge, j'ai côtoyé pas mal de situations. Et beaucoup de problèmes, en fait, se retrouvent dans la définition même de la question. Parce que quand on parle de l'autonomisation des femmes africaines, souvent, ou en tout cas pendant longtemps, on en parlait comme si c'était un groupe homogène. Or, il y a des femmes éduquées et non éduquées, il y a celles qui ont été à l'école sans pour autant avoir acquis des compétences suffisantes ou réelles pour pouvoir être employable ou s'employer elles-mêmes. Et il y a toutes ces femmes qui sont en dehors des circuits de production. Il y a les femmes mariées, il y a les jeunes filles qui ne sont pas mariées et qui constituent pratiquement plus de la moitié des femmes africaines dont on parle. Ça, c'est le premier souci, parce que on ne définit pas de qui on veut parler correctement quand on parle de l'autonomisation des femmes, surtout quand on aborde la question des programmes, des projets. Le deuxième défi est lié à la conception même de l'autonomisation des femmes. Très souvent, on pensait aux femmes comme ayant besoin d'aide pour acquérir une autonomie financière. Or, l'autonomisation des femmes doit être conçue comme une entreprise sociale. Et là, j'emprunte la définition de Mohamed Younous, qui définit le social business comme étant une entreprise sociale qui a une vision sociale en son cœur et dont l'objectif principal est de répondre à un besoin social et de résoudre des problèmes humains. Maintenant, rapidement, les défis. Les défis sont similaires à ceux qui ont confronté le développement africain en général. Le discours dominant est resté complètement occidentalisé et l'inadéquation entre le problème à résoudre et les solutions proposées ont dominé ou ont expliqué les échecs de tous ces programmes de développement. Le deuxième point qui est lié au premier, c'est que l'approche paternalistique qui aboutit à réduire la question au besoin des femmes d'avoir accès à un financement, en fait, occulte les questions fondamentales de rentabilité, de compétences, d'appui continu. Et pendant longtemps, ces idées ont dominé l'espace et on donnait des financements, mais on ne savait pas pour qui, pourquoi, comment.
Merci. Frida, la Tunisie enregistre un record de femmes formées, n'est-ce pas? Voudriez-vous nous parler justement de toutes ces opportunités qui s'offrent à la femme tunisienne?
Elles ont toutes les opportunités, surtout qu'elles sont beaucoup plus nombreuses que les hommes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a dans les nouvelles générations, il y a plus de filles que de garçons, ce qui fait qu'elles s'imposent d'elles-mêmes, elles s'imposent aussi par leur caractère, parce qu'en général, elles sont plus assidues, plus attentives, plus intéressées par les études, par exemple. Et donc, elles vont porter beaucoup plus loin leur cursus. Je parle de manière générale, bien entendu, il y a toujours des niches qui sont totalement hors de ce schéma-là. Mais par contre, elles ont accès à tout, que ce soit en matière d'études ou en matière même de profession. Seulement, jusqu'à, on a chez nous des femmes qui sont chauffeurs de bus, des femmes qui sont chauffeurs de taxi, des femmes qui sont policiers, des femmes qui sont chefs d'entreprise, bien entendu, des chercheurs. Voilà, elles existent partout. Seulement, il y a toujours une mentalité dans la société qui fait que la femme n'a pas l'impression d'être au maximum de ses compétences. Que à, disons, situation égale, on donnera plus de chance à un homme qu'à elle. Pourtant, on a bien sûr l'égalité des salaires, etc. Tout ça, c'est dû au code du statut personnel qui a été adopté en 1956. C'est quand même un acquis très très important qu'on voudrait absolument conserver à tout prix, parce qu'il n'est qu'une introduction à ce qu'on pourrait développer encore en matière de droit. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, j'estime quand même que l'autonomisation des femmes doit être globale. C'est vrai qu'elles sont, les femmes sont la colonne vertébrale de notre économie. Ça, c'est clair. D'ailleurs, dans ma famille, on le prouve, ce sont les femmes qui ont pris le relais quand il y a eu la guerre. Elles sont sorties travailler. Si bien que quand elles sont sorties travailler, après, quand elles se sont retrouvées veuves, elles ont toujours refusé de se remarier. Donc voilà, elles étaient sorties du schéma patriarcal, familial, classique, pour prendre, elles, le pouvoir quelque part en ayant osé aller travailler. Et c'est vrai que dans nos sociétés, beaucoup se rendent compte que quand elles osent, quand elles ont de l'audace, quand elles prennent la liberté, parce que la liberté, ça se prend, ça se donne pas, automatiquement, elles accèdent à des choses auxquelles elles ne pensaient pas. Par contre, concrètement, il nous manque un cadre légal, un développement des lois, il nous manque une représentativité politique des femmes, comme il manque aussi une vision beaucoup plus économique de la femme. On y pense beaucoup en matière sociétale, en matière de petites entreprises ou de petits projets, on pense pour les femmes, quand on pense aux femmes, on pense petit. C'est dommage. Et justement, je rejoins l'intervenante qui m'a précédée pour dire que ce qui est aussi dommageable, ce sont ces programmes venus, disons, de l'Occident. C'est des packages tout faits. Ça ressemble beaucoup à des choses que du marque de grande distribution de bricolage où on vous livre tout et souvent il manque une vis. Et voilà, ça ne s'adapte pas au pays. Parce qu'il n'y a pas eu de concertation, de consultation, de discussion sur le terrain pour voir ce qui remonte. Et quand on va sur le terrain ici, on le voit, c'est très très riche. Les femmes sont pleines de propositions, etc. En plus, elles ont le sens de la collectivité. Et ça, c'est très très important. C'est ce surtout que les femmes gardent le plus peut-être, ce souci de la communauté.
Gardez l'écoute, on va suivre certains de nos auditeurs qui nous ont envoyé leur point de vue sur notre messagerie WhatsApp. On va d'abord suivre Sena Dodi Kwadjo qui est à Lomé au Togo.
Bonsoir la VOA Afrique et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique. C'est monsieur Sena Dodi Kwadjo depuis Togo, Lomé. À mon avis, les obstacles auxquels les femmes africaines sont confrontées dans leur participation économique, c'est le financement et le manque de formation des femmes. Les initiatives reçues sont les institutions de microfinance qui aident les femmes dans l'entrepreneuriat. Donc, pour renforcer l'autonomisation économique des femmes en Afrique, nous avons besoin des investisseurs étrangers et nous avons besoin des formateurs étrangers spécialisés qui vont former les femmes avant de leur donner l'accès au financement pour qu'ils puissent bien gérer les fonds qu'on leur donne. Donc, plus d'investisseurs, et je pense que c'est plus d'autonomisation des femmes aussi. Donc, que tous les États fassent de leur mieux pour ouvrir les portes de financement aux femmes, les portes de l'entrepreneuriat, et sortir les femmes qui sont dans l'informel et les faire entrer dans le milieu formel. C'est ce dont je bats à Bless Peace Africa.
Voilà ce que pense Sena Dodi Kwadjo de Lomé au Togo. Nous avons aussi Berthe Abdoulaye qui est à Bamako.
Bonsoir la VOA, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Monsieur Berthe Abdoulaye depuis Bamako. À mon avis, l'autonomisation économique des femmes africaines joue un apport très sensible sur le plan de développement économique de l'Afrique. En s'appuyant sur les résultats des derniers recensements de la population africaine qui montrent que les femmes sont les plus nombreuses que les hommes. En partant de cet élan, leur contribution aux activités éducatives, agricoles, administratives, etc. représente un aspect très positif pour le progrès africain. Et dans les cas contraires, comme ce que nous vivons dans la plupart de nos pays, les femmes sont minimisées au sujet du développement, surtout dans le secteur éducatif. Beaucoup de parents d'élèves illettrés ont encore du mal à comprendre les enjeux de la non-scolarisation des jeunes filles à l'école. Mais avec des ONG chez nous au Mali, on a constaté des vrais appuis financiers et éducatifs sur le plan agricole en faveur des femmes de nos communes urbaines. Merci la VOA.
Merci à vous aussi, Abdoulaye. Nous avons Alphonse Mbouaki qui se trouve à Kinshasa.
Alphonse Mbouaki, à votre avis, en Afrique, des services sensibles au genre, des ressources de production, des marchés de l'agriculture, de l'industrie et du commerce peuvent considérablement renforcer l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Quelles sont les causes de l'autonomisation de la femme? Pour autonomiser économiquement les femmes, il faut leur donner l'accès à l'éducation, la participation des femmes aux décisions politiques et économiques à égalité avec les hommes restent évidemment des objectifs majeurs. Comment assurer l'autonomisation des femmes? Investir dans des politiques et des systèmes de protection sociale pour créer un milieu permettant aux femmes d'accéder au marché du travail officiel et non officiel et de s'y épanouir comme des congés pour motifs familiaux, des services de garde, des horaires souples et des mesures de sécurité sociale. C'était donc Alphonse Mbouaki. À votre avis.
Merci Alphonse pour votre point de vue. Cyrilla Abgakira, un commentaire, une minute sur les trois points de vue de nos auditeurs. Allô?
Eh bien, écoute, oui, non, j'étais en train de prendre des notes. Très, très intéressant comme commentaire. Et en fait, ça rejoint une autre question qu'on allait aborder plus tard sur les opportunités. Le monsieur qui a appelé du Togo a mis le doigt sur le problème. La formation. Mais quand on parle formation, il faut que nous sachions qu'il y a trois éléments dans la formation. Il y a la formation technique, quel que soit ce qu'on veut faire. Si on veut cultiver, il y a des techniques de, pour cultiver, pour conserver, pour emballer. Mais il y a aussi la formation en technique basique de financière, de comptabilité, pouvoir compter, pouvoir savoir quels sont les intrants, quels sont les outputs. Et enfin, il y a les compétences personnelles. Nous nous attendons à ce que ces femmes qui ont été financées, qui ont été formées, puissent vendre, puissent parler à des clients et on ne leur donne pas la formation en compétences personnelles pour savoir comment gérer les clients, comment leur parler, comment parler aux ONG ou aux financiers éventuels, comment parler entre elles-mêmes. Parce que quand on travaille en équipe, on travaille beaucoup mieux. Ça, c'est un premier point qui est très, très important pour moi. Le deuxième point qui est très important que j'ai noté, c'est la question de financement. Le financement, on y reviendra, je suis sûre, c'est qu'on doit dépasser la question de donner accès au financement. Le système d'autonomisation ou les modèles d'autonomisation doivent pouvoir inventer des manières, de manière à ce que les femmes puissent accéder et pas qu'on leur donne accès, mais puissent accéder. Nous y reviendrons peut-être avec d'autres questions. Merci.
Oui. Oui, Salimata, voudriez-vous nous partager, disons, des exemples d'initiatives réussies dans cette partie de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest ou surtout le continent, qui ont contribué à renforcer l'autonomisation économique des femmes?
Merci beaucoup. L'autonomisation financière des femmes est un levier très sûr, un levier vraiment pertinent pour le développement, pour l'autonomisation des femmes. L'accès des femmes au financement est vraiment essentiel pour la valorisation des potentiels et pour une croissance économique endogène. Je pense que les interventions des uns et des autres sont revenues sur ce point capital. Et en termes de bonnes pratiques, ce que nous pouvons partager aujourd'hui avec vous, c'est des initiatives que certains pays ici en Afrique de l'Ouest ont prises en faveur de l'autonomisation des femmes de la région ouest-africaine, surtout dans les zones transfrontalières. Si nous prenons des régions comme le Bénin, le Burkina Faso, Côte d'Ivoire, entre autres, il y a eu un programme qui a permis de connecter les femmes de ces régions pour des partages de bonnes pratiques, surtout depuis l'arrivée de COVID. On a vu la naissance de beaucoup de plateformes digitales qui fournissent des informations financières et non financières aux femmes qui leur permettent aujourd'hui de partager leur expérience dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transformation, par exemple des produits agricoles, où on trouve pratiquement plus de 90% de femmes actives dans ce secteur. Et ces plateformes digitales ont permis aujourd'hui aux femmes de pouvoir se déplacer directement au niveau de la région et de se faire connaître, de faire connaître leurs produits et d'amener aujourd'hui les marchés là où elles vivent. Ça, ce sont des cas pratiques qui ont vu le jour ces trois dernières années.
Merci Salimata. Merci Salimata. Il nous reste très peu de temps. Je vais pouvoir donner la parole à Frida avant de terminer. Frida, comment les femmes africaines peuvent-elles surmonter les obstacles culturels et sociaux qui limitent leur autonomisation économique?
Déjà en étant citoyennes, en exerçant leurs droits de citoyennes, en allant voter. Et du coup, elles peuvent se permettre d'exiger des lois parce qu'elles auront des députés, elles auront des représentants. Si elles-mêmes ne vont pas jusqu'à être représentantes politiques. Ça joue un rôle très très important, ça fait partie de l'équilibre de la société, de l'économie et d'un pays de toute façon. Et aussi, il faudrait que les femmes sortent de cette dimension, question de dimensionnement justement. On parle d'agriculture, de petits projets, etc. Il faudrait arrêter de parler d'agriculture, les gens inconsciemment ont l'impression quand on parle d'agriculture, on parle de petites productions. Là, il faut que les gens réalisent qu'elles sont en train de travailler à l'alimentation, cette alimentation, cette nutrition qui va sauver le monde, dont le monde a besoin pour survivre. C'est très, très différent comme approche. Et il faudrait surtout avoir donc des lois et surtout intégrer la parité au niveau des mentalités à travers l'éducation. Et là, c'est les femmes elles-mêmes, plus que tout autre, qui peuvent véhiculer ce puisque elles qui sont en
merci
général.
Merci Frida. Malheureusement, le temps imparti à cette émission vient de prendre fin. On avait encore plus de questions à débattre. Merci.